Nous sommes vendredi le 2 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors d'abord, nous tenons à s'excuser de notre absence ces dernières semaines. Nous avons été tout à fait basculés par les imprévus et les contretemps qui découlent malheureusement de notre état de santé qui s'améliore graduellement. Alors nous profitons en même temps de rendre hommage à l'équipe de Gilles Boivin, Jean Stoll, Madame Bouchard et d'autres de la Save DPJ donc, qui poursuit leur engagement sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, informant bien sûr la population de la problématique de la direction de la protection de la jeunesse envers les familles québécoises. Est-ce que tous les enfants arrachés maintenant, est-ce que tous les enfants arrachés de leur milieu naturel pour être placés sous l'aile de la DPJ, la Direction de la Protection de la Jeunesse? Je vous laisse la réponse, mais vous devrez être prudent. La question n'est aussi pas tout à fait simple. Alors, sincèrement, il faut avoir vécu ou être bien informé de ces situations et ces conflits qui ont effondré des familles et des familles ici au Québec. Alors, des liens de famille brisés, des manières dégueulasses, des frères et des sœurs dispersés sous les commandations et les notes d'un simple fonctionnaire éloigné, coupé, d'abord même le circuit vital entre les parents et leurs enfants, tout ça au nom de la protection de la jeunesse au Québec. Une jeunesse en quête d'une identité jamais retrouvée. Ceux qui suivent ce dossier depuis longtemps constatent la complicité et l'inaction de nos gouvernements successifs envers cette situation qui échappe d'ailleurs à toute solution urgente pour l'instant. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, vous savez, savez-vous pourquoi ? Parce que l'éléphant est devenu tellement énorme qu'il faut presque démolir tous les murs autour de lui pour le faire sortir de cette baraque, autrement dit, le sortir de l'impasse. Et dans un cas comme celui-ci, les sages de notre société préfèrent d'ailleurs même fermer les yeux et regarder ailleurs plutôt d'affronter cette barre et tenter pour le moins à la redresser. Mais nous sages ont oublié, je dis bien, ils ont oublié que l'éléphant va continuer à prendre du poids et sa taille qui ne rapetissera sûrement pas va forcément un jour détruire la bâtisse de son emprisonnement. Alors, une jeunesse non reconnaissante envers cette société, combien sont-ils ? Encore les chiffres sont troublants pour les prononcer. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, comme vous tous, j'écoute les émissions de mes collègues et je trouve courageux de leur part de nous faire voyager dans les entrailles de ce monstre qu'on appelle à tort ou à raison la DPJ au Québec. Bref, n'oubliez jamais, chers auditeurs, que ce groupe qui se déplace de loin et consacre beaucoup de temps à préparer ses émissions, à suivre et appuyer, accompagner les personnes prises dans les filets de la Direction de la Protection de la Jeunesse, reste que tout le travail demeure bénévoles, leur action est purement humaine puisqu'ils n'ont aucun intérêt sauf quelques ennuis qui peuvent suivre. Voilà, donc j'y voulais par cette occasion rendre hommage à M. Gilles Boivin, M. Jean Stoll, Mme Bouchard et tous celles et ceux qui présentent ou qui représentent et participent aux émissions qui débattent les problèmes et les impasses face à la Direction de la Protection de la Jeunesse. Revenons maintenant à notre fenêtre ouverte sur les injustices au Québec et plus précisément au décès de M. Farshad Mohammadi. Alors, un itinérant abattu le 6 janvier 2012 au métro Bonaventure par des agents de la SPVM, la question qui peut être posée de votre part, y a-t-il quelque chose de nouveau dans ce dossier pour vous en parler justement ce matin? Alors, y a-t-il nécessaire de nous, est-ce qu'on va parler chaque fois de ce type-là? Alors, des questions de ce genre qui sont d'ailleurs légitimes de votre part. Premièrement, pour vous répondre, moi personnellement, je souhaite parler pendant toute l'année uniquement de cette histoire. Je ferai volontiers chaque semaine une émission sur la mort de M. Farshad, un itinérant abattu par les forces policières le 6 janvier 2012 au métro Bonaventure. Je ne me lasserai pas, je dirais vraiment, sincèrement, je ne me lasserai jamais de le répéter. Nous devrons, chers auditeurs, chères auditrices, comprendre qu'il y a dans cette mort une vraie tragédie qui devra réveiller notre conscience collective, semble-t-il, toujours en endormi. Alors la vie et la mort de M. Farshad ont bouleversé une grande partie de la population au Québec et ailleurs dans le monde, malgré que les autorités québécoises justement ont fait et ils font tout pour minimiser ce drame et faire de lui un cas isolé qui mérite beaucoup d'attention. Alors, des gens qui ont pris connaissance, je dis bien, il y a des gens qui ont pris connaissance du parcours un peu trop douloureux de cette victime, prennent les choses plus au sérieux. Farshad, je parle de la victime, donc était une personne en quête de bonheur, de tranquillité dans un Québec qui a choisi comme destination une terre remplie de mensonges et de trahisons. Farshad représente les milliers de victimes qui viennent chaque année au Québec en pensant qu'ils se sont rendus sur la terre promise et qui meurent lentement à petit feu à travers les années. Ils meurent dans le regret d'avoir découvert le mensonge d'une société truquée et gonflée par le mensonge où les puissants dévorent les faibles en tout moment. Alors si vous voulez, chère auditrice, chers auditeurs, réellement avoir la preuve de ces dires, je vous invite de retracer la vie de M. Farshad sur le sol canadien. Si le sort de plusieurs milliers d'autres, s'ils ne sont pas achevés de la même manière que M. Farshad, ils meurent s'ils ne le sont pas déjà, je dis bien, s'ils ne sont pas déjà forcément par la découverte du mensonge, la tromperie, la fabulation, l'hypocrisie impardonnable d'un État expert dans le mensonge pour s'enrichir et continuer d'exister. Alors voilà pourquoi maintenant je vous en parle ce matin de Farshad. La réponse est simple. Un enquêteur de la déontologie policière, monsieur, je dis même son nom, hein. Alors c'est monsieur Yvon Lacroix, un bonhomme très gentil et très professionnel que j'ai déjà rencontré dans d'autres dossiers concernant les litiges qui opposent des citoyens et des policiers. Alors il m'a appelé pour m'informer que la plainte du mouvement Action Justice concernant la mort de monsieur Farshad va débuter à leur niveau, puisque la section du crime majeur de la sécurité publique ont remis le résultat de leur enquête à un procureur de la Couronne qui a décidé de ne pas porter aucune accusation envers les agents de la SPVM qui ont fait feu sur M. Farshad le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure. Alors vous devrez comprendre aussi, chers auditeurs, chères auditrices, que cette information n'a pas été révélée à ma connaissance par les médias et encore moins par les porte-paroles de notre gouvernement. Maintenant, chers auditeurs, permettez-moi de vous brosser un petit tableau pour vous dessiner les moments qui ont précédé la mort de cette victime. Alors ceci est très important, le dessin qu'on fait aujourd'hui de la scène peut ne pas être vrai, à condition de la présentation du contraire de ce dessin. Malgré qu'il y avait des caméras de surveillance sur le lieu de l'incident, mais personne n'a voulu révéler les images prises à ce moment-là. Alors nous allons maintenant observer ce petit tableau de Farshad quelques instants avant sa mort, un itinérant comme des centaines d'autres qui circulent à Montréal. Nous avons connu son nom quelques heures après la fusillade qui a coûté sa vie. Farshad Mohammadi, il avait froid. Quand il s'est réfugié sur un banc de la station de métro Bonaventure. Alors les témoins nous disaient qu'il dormait lorsque deux agents de la SPVM sont allés l'embêter, question de règlement comme toujours, quand les patrouilleurs de la SPVM s'ennuient de rien faire. Alors il n'avait pas le droit, semble-t-il, de dormir dans ces lieux. Par contre, il pouvait mourir à tout moment. Ce qu'il n'avait pas compris, ce pauvre type, c'est qu'au Québec, mourir, c'est beaucoup plus facile que vivre. Bref, Farshad ronflait dans son sommeil quand les deux policiers de la SPVM sont venus le réveiller. Et je ne vous dis pas de quelle manière nos agents de la SPVM réveillent un itinérant pour l'expulser d'un lieu. Voilà, donc le 6 janvier 2012, c'était le tour de réveiller ce type-là, Farshad Mohammadi. Il fallait le réveiller une fois pour toutes. Le réveiller d'un sommeil qui a duré trop longtemps, bref. Pour faire une petite histoire, dormir pour un itinérant, c'est un luxe qu'il ne faut surtout pas lui enlever, et lui enlever ce dernier recours, ça sera un peu trop injuste. Mais les deux policiers de la SPVM l'ont fait quand Farshad avait ouvert les yeux d'un seul coup. Ils voyaient les deux policiers avec leur uniforme, donc ils n'étaient pas tout à fait certains qu'ils dormaient encore ou non. Une chose est certaine, Farshad s'est senti sur le point d'être agressé. Alors vous comprenez, le reflet était le suivant. Il sortait un exacto qui cachait au fond de sa poche et il tentait d'éloigner l'agresseur. Alors maintenant, le policier le plus proche reçoit un passage fugitif de l'exacto sur la surface de son cou et une blessure superficielle qui a mis évidemment la poudre dans le feu. Des témoins ont vu également que M. Farshad, en fuyant le lieu, il avait rangé son exacto dans sa poche. Les policiers, ont couru derrière lui, direction les escaliers mécaniques qui le conduisaient vers la sortie de la station de métro Bonaventure. Alors une fois sur les escaliers, personne n'a rien vu et tout le monde sur place a entendu le premier coup de feu. Quelques instants après, deux autres coups de feu qui ont achevé apparemment la victime. Maintenant, premier constat, Farshad était dans une position de fuite. Autrement dit, tout ce qu'il cherchait, c'était de fuir ses agresseurs, fuir le danger, fuir le cauchemar. Il n'avait rien de préalable contre les policiers, encore moins contre des agents de la SPVM. Farshad n'a jamais été menaçant. Farshad était une personne extrêmement gentille. La première balle qui atteint Farshad, nous allons tenter de l'avaler en guise d'une excuse, d'une faiblesse, d'un triple qui a mal tourné. Mais les deux balles qui ont suivi la première ne vont jamais être pardonnées. Et malgré ça, la section des crimes majeurs de la sécurité publique s'est prononcée dernièrement et la vie de M. Farshad est perdue, je dis bien perdue, gratuitement, sans que justice soit rendue dans ce dossier. Voilà, c'est pour vous rappeler que Farshad Mohammadi était un être humain, comme vous et moi. Sa mère l'a porté 9 mois, puis un jour, il est né, comme tout le monde. Il avait un nom, un prénom, une date de naissance, bref, il avait tout pour avoir ce putain de droit d'être considéré comme un être humain. Mais malheureusement, il n'a pas eu cette chance d'être respecté comme tel. Si nous parlons de lui aujourd'hui, justement, chère auditrice, chers auditeurs, c'est parce que nous sommes tous sa famille, puisqu'il n'avait personne d'autre que nous, et nous allons se rappeler de lui, se rappeler de son combat, de la vie misérable qu'il a vécue jusqu'à les derniers moments de sa vie, comment, finalement, la justice au Québec l'a traité pendant et après sa mort. Voilà, c'est les quelques mots que j'avais à dire ce matin à propos d'une enquête policière de la sécurité publique concernant la mort d'un homme qui était trahi à son tour par un pays mensongère. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'arabie de pouvoir. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, après notre thème musical, je vais tenter de rejoindre M. Alexandre Popovitch, porte-parole de la coalition contre les répressions et les abus policiers. Et je devrais aussi essayer, je devrais bien tenter de rejoindre aussi François, qui est de la COBP, le collectif opposé de la brutalité policière. Nous souhaiterons avoir leur avis concernant cette fin administrative qui vient d'enterrer une seconde fois M. Farshad Mohammadi, abattu le 6 janvier 2012 par les agents de la SPVM. Chères auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute pour entendre la réaction de deux militants contre l'impunité policière et la justice pour tous.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a fait payait sa dette. 20 ans de prison mérité reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à l'une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à l'une.
Alors bonjour. Allô. Allô, oui. Allô, oui. Alexandre. Alexandre ? Allô, oui ?
Allô ?
Oui, bonjour. Alors voilà, donc, chers auditrices, chers auditeurs, en revenant à notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Et j'ai avec moi sur la ligne Monsieur Alexandre Popovitch. Il est porte-parole de la condition de la coalition contre la répression et les abus policiers. Bonjour, Monsieur Popovitch.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et vous savez pourquoi je vous ai appelé ce matin, justement dans ce dossier de M. Farchad. Alors moi, ce qui m'a, je l'avais déjà précisé à nos auditeurs et auditrices, comme quoi j'ai reçu un appel de la déontologie policière d'un certain enquêteur qui s'appelle Lacroix, Yvon Lacroix, pour m'informer comme quoi le dossier de M. Farchad était transmis à leur niveau. Et une fois ce dossier transmis, ça veut dire qu'il n'y avait aucune accusation contre les deux policiers qu'ils ont abattus, M. Farchad, le 6 décembre 2012 à la station du métro Bonaventure. Vous suivez ce dossier de près, si je ne me trompe pas, exact ?
Oui, dans la mesure du possible.
Dans la mesure du possible, bien dit. Alors, Monsieur Popovitch, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, la décision, elle est déjà sortie, et ni le public, ni personne d'autre a pu avoir connaissance de cette décision-là, qui est finalement de ne pas porter d'aucune accusation contre les deux policiers qu'ils ont tirés sur Monsieur Farchad. Quelle est votre réaction?
Bien, effectivement, je suis moi-même allé vérifier sur le site web du directeur des poursuites criminelles et pénales et j'ai constaté l'absence de communiqué ni relativement à cette décision-là. Il faut dire que c'est une pratique assez courante de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas rendre public des décisions dans des dossiers très sensibles comme les décès de citoyens aux mains de la police, aux mains du service de police de la ville de Montréal. C'est très rare qu'un communiqué va être émis. Ils en ont émis un dans le dossier là, de la policière Stéphanie Trudeau, alias matricule 728, pour annoncer qu'ils prendront, déposeront pas d'accusation contre elle là, dans l'affaire du vidéo, ce qu'a poivre généreusement des manifestants très pacifiques. Également, une autre exception à cette règle du silence de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est lorsqu'il a rendu ça public, de ne pas porter d'accusation contre les policiers impliqués dans l'intervention policière qui a coûté la vie à Mario Hamel et Patrick Limoges là, en juin 2011. Mais sinon, règle générale, le directeur des poursuites criminelles et pénales ne révèle absolument rien. C'est une attitude, d'ailleurs, qui avait été déplorée lors de la commission parlementaire relativement là, au projet de loi prévoyant la création du Bureau des enquêtes indépendantes, le projet de loi 12 du gouvernement Marois, différents organismes de la société civile, protectrice du citoyen, CSN, Ligue des droits et libertés, avaient déploré le fait que le directeur des poursuites criminelles et pénales a pris la bien vilaine habitude de ne pas révéler les motifs de ses décisions dans des dossiers de décès de citoyens aux mains de la police. Même la Fraternité des policiers et la Fédération des policiers municipaux du Québec avaient également déploré ce manque de transparence de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, c'est vraiment une très rareté où on voit où on entend plutôt des voix de la société civile et des voix du lobby policier réclamer la même chose. Et le directeur des poursuites criminelles et pénales continue à faire la sourde oreille, malheureusement, face à ces revendications tout à fait légitimes, à mon bien humble avis.
Monsieur Popovitch, vous avez dit un mot, vous avez utilisé plutôt un mot qui était un petit peu particulier. Vous avez dit comme un dossier aussi simple, aussi léger. C'est-à-dire, est-ce que vous faites référence que, justement parce que le cas de M. Farchat, c'est un cas particulier. Hein. On sait tous que c'est une personne qui a pas de famille ici et qui est un réfugié. Son cas était un petit peu vraiment dramatique, là, si je ne me trompe pas. Alors, pour vous, parce que Farchat, Mohamedi, la personne, alors il n'y a personne qui va sortir, qui va essayer de demander des comptes au gouvernement, ou bien ça devient de nous les citoyens, qui devrons prendre cette part-là?
Je ne crois pas avoir employé les termes auxquels vous faites allusion concernant ce dossier-là. C'est une tragédie, là, quand même. C'est un décès qui n'aurait pas dû arriver comme bien d'autres décès. Mais oui, il faut effectivement, en quelque part, là, que des citoyens, des organismes citoyens prennent le relais face à l'inaction et au silence de l'État. Hein. Il faut bien que... Moi, je peux vous dire que j'ai fait une demande d'accès à l'information auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales pour avoir des copies des décisions qui ont été rendues par le directeur dans des dossiers de décès de citoyens aux mains de la police. Ils ont sorti 5 articles de la loi sur l'accès à l'information pour me refuser ces dossiers-là. Alors que, le directeur des poursuites criminelles et pénales est très rapide à invoquer le secret professionnel. Alors que pourtant, dans d'autres dossiers, je pense plus particulièrement là, au décès de Freddy Villanueva, hein, on se rappellera que lorsque la décision a été la décision de ne pas porter d'accusation contre l'agent Jean-Louis Lapointe a été rendue de façon très publique en conférence de presse avec un procureur de la Couronne qui lit les extraits du rapport du policier pour justifier sa décision de ne retenir aucune accusation. Et est-ce que le fait qu'il y avait eu une émeute suite au décès de Freddy Villanueva à Montréal-Nord en 2008 a joué dans cette décision-là? Probablement, puisqu'il y avait une certaine appréhension et un certain désir de calmer l'opinion publique dans ce dossier-là. Donc oui, le directeur des poursuites criminelles et pénales n'est pas insensible à une certaine pression là, de la part des citoyens.
Oui, mais M. Popovitch, selon vous, avant de parler des médias, du rôle des médias, cet incident-là, qui est très malheureux et tout, qui était produit au métro de Bonaventure, il y avait des caméras de surveillance. Est-ce que ce n'est pas de l'intérêt public de diffuser ces derniers moments de la mort de M. Farchat?
Bien oui, je suis totalement de cet avis et on se rappellera peut-être là, que le quotidien de Gazette hein, avait envoyé son avocat maître Marc Bente pour devant la commission d'accès à l'information pour obtenir les images vidéo qui ont été filmées par la Société de transport de Montréal au métro Bonaventure le 6 janvier 2012. Et la commission, malheureusement, là, a maintenu le refus de la part des autorités. Donc oui, c'est effectivement très malheureux parce que s'il existe des images vidéo qui parlent d'elles-mêmes, pourquoi ne pas les rendre publiques? D'ailleurs, comme on parle de plus en plus là, d'installer des caméras sur les policiers, n'est-ce pas? S'il y a des projets pilotes là, qui foisonnent un peu partout à travers l'Amérique du Nord à ce sujet-là. Donc, c'est un peu une bêtise d'un d'une autre époque, là, de vouloir s'enfermer dans l'obscurantisme et de cacher la vérité aux citoyens. Là, si on est dans une ère de télécommunications, de d'autoroute de l'information et ainsi de suite, et on dirait que certains responsables là, au niveau de l'appareil de l'État vivent encore à l'ère des cavernes, ou en tout cas, à tout le moins, tentent de nous maintenir dans une époque obscurantiste.
Monsieur Popovitch, vous avez prononcé aussi un mot qui était aussi important. Vous dites que cacher, exactement, c'est le mot juste, sache que cacher la vérité. Alors maintenant, revenons aux médias. Les médias, une fois Monsieur Farshad, quand il a eu quand il est mort, il y avait toute une couverture médiatique et tout. Mais après, on voit le silence des médias qui suit. Et jusqu'à présent, il y a quand même une décision qui vient de sortir, comme quoi il n'y a pas de suite, il n'y a pas aucune charge contre les policiers. Le rôle des médias, à votre avis, là, ce silence, là, ce lourd silence des médias, est-ce que c'est pas inquiétant réellement?
Bien, effectivement, il faut constater et déplorer qu'il y a un manque flagrant de suivi de la part des médias, des grands organes d'information concernant les décès là, de citoyens aux mains de la police. On peut penser là, plus récemment au cas d'Alain Magloire, hein, qui a été abattu par des policiers sur la rue Berry au début du mois de février de cette année. Et les médias en ont parlé pendant une semaine. Et ensuite de ça, bien, on passe à autre chose. Et il y a aucun suivi qui est fait. Il faut dire que c'est très très long là, de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales. Je veux dire, ils ont pris 2 ans dans le cas de M. Mohamedi hein, pour rendre une décision. Alors comment se fait-il qu'ils ont eu 2 ans? Ça, on n'en a aucune idée. Encore une fois, on n'a aucune explication. Mais oui, effectivement, le manque d'intérêt des médias de suivre, de consacrer des ressources pour suivre ces dossiers-là, la façon que les décès de citoyens aux mains de la police sont traités de la part du directeur des poursuites et pénales et ainsi de suite, ne fait qu'encourager ces responsables-là de s'enfoncer là, dans le secret plus profondément et de continuer à priver la population d'informations d'intérêt public auxquelles la population a droit.
Monsieur Popovitch, on peut aller même juste dire que les médias, on peut dire que les médias, ils ont une commande, il y a une commande qui vient de plus haut, de leur dire que vous ne discutez pas de ce sujet-là. Est-ce que on peut aller pousser jusqu'à ce point-là?
Bien, écoutez, c'est une théorie. Il existe peut-être d'autres explications aussi. Là. Moi, je ne saurais dire, là, j'ai pas de preuve de raison de penser là, qu'il y a une commande politique là, de bâillonner les médias ou de demander aux médias de s'auto-censurer. J'espère vivement là, que ce n'est pas le cas, parce que sinon on serait rendu bien bas là, dans notre société.
Alors voilà, maintenant, vous savez, maintenant le dossier il est transmis à la déontologie policière. Moi, je crois très peu à cette institution aussi, qui, pour moi, c'est un gaspillage de fonds publics. Alors, pensez-vous que maintenant, à ce niveau-là, il y aura des sanctions?
Bien, je l'espère. Je pense que ce serait un minimum. Malheureusement, on assiste encore une fois à un cas où on décriminalise hein, la violence policière. Hein, au lieu de porter des accusations criminelles, bien, on s'en va. On passe le flambeau à la déontologie policière. Donc, les conséquences sont évidemment moindres pour les policiers impliqués. Mais malheureusement, il y a une certaine réalité hein, ici au Québec, c'est que les policiers à l'École nationale de police du Québec, là, les aspirants policiers se font former, se font dire qu'une personne qui a une arme blanche dans les mains, que se tient à 21 pieds de vous constitue une menace mortelle, donc vous êtes fondé à employer une force mortelle contre cette personne-là. Donc ça, c'est l'enseignement qui est prodigué à chaque année aux centaines d'aspirants policiers qui vont porter l'arme à feu là, dans les années à venir. Et le problème, c'est justement, c'est que lorsque ces policiers-là pour de très rares fois, mais ça arrive quand même parfois qu'ils doivent répondre de leurs actes devant un comité de déontologie policière. Bien, alors là, comment le tribunal déontologique peut-il les blâmer alors que ces policiers-là n'ont fait que appliquer la formation qu'ils ont reçue, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un problème aussi, là, qu'on forme les policiers à tirer pour tuer, hein, lorsque une personne tient une arme blanche dans les mains, il peut, et on ne tient même pas compte de l'état mental de cette personne-là. Il faut faire feu, il faut tuer la personne, tout simplement. C'est complètement barbare et abject, mais c'est ce qui fait souvent en sorte que les policiers s'en tirent, puisque eux autres, ils ont besoin de dire, bien, écoutez, on m'a formé pour faire ça, et j'ai appliqué la formation que j'ai reçue à l'École nationale de police du Québec.
C'est vraiment, c'est très malheureux ce que j'entends. Malheureusement, c'est ça les faits. Et malgré que monsieur Farchadi avait un exacto, malgré qu'ils ont pu tirer au pied, ils ont pu éviter sa mort, mais malheureusement, il est mort. Alors voilà, donc, tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, monsieur Alexandre Popovitch, d'avoir participé à notre émission. Et puis, j'espère que vous continuez votre combat de militant.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Alors, chers auditrices, chères auditrices, on va juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec un autre sujet, un autre registre.
Les deux mots d'amour, et derrière les petits fours, les vautours cachent un compte à rebours. Gagner, gagner toujours plus, et là plus question d'amis. C'est l'univers capitaliste, royaume hypocrite de l'industrie. Royaume hypocrite de l'industrie. Royaume hypocrite de l'industrie. Aucun remords pendant que le monde se meurt chaque jour. Ils crament leur putain d'argent, le dissémine au gré du vent. Tout ça pour briller sur des yachts flambant neufs, au large d'une plage dorée faite de pétasses et de palmiers. Combien de temps encore? Combien de temps allez-vous rester les bras croisés à regarder le monde crever de faim, des enfants vous supplier de ne plus combattre pour rien, des milliards de malheureux pour le seul plaisir de vos yeux. Même si vous les ignorez, moi je ne vois que. Moi je ne vois que. Arrêtez de prôner l'amour, la gloire et la beauté. Notre putain de monde n'est fait que de misère et de pauvreté. Pendant que l'amour se vacille au rythme des guerres et des paix, c'est l'ensemble du globe qui entretient sa sainteté. Qui entretient sa sainteté. Allez-vous rester les bras croisés à regarder le monde crever de faim, des enfants vous supplier de ne plus bombarder pour rien, des milliards de malheureux pour le seul plaisir de vos yeux. Même si vous les ignorez, moi je ne vois que. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps encore?
Alors bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors, j'ai maintenant, on va laisser le cas de M. Farjad, on va revenir maintenant dans un autre cas complètement dans un autre registre. Là, j'ai devant moi un monsieur là, qui est venu, qui a insisté de venir pour témoigner devant vous aujourd'hui. Alors, monsieur, il a 70 ans, 71 ans même, 71 ans. Alors, il est accompagné par un membre du mouvement Action Justice, monsieur Barnabé, qui accompagne ce monsieur-là. Depuis combien de temps vous l'accompagnez?
Mais
ça fait au-dessus d'un an. Ah, ok, presque d'un an. Alors, le monsieur, je vous résume un petit peu très, très brièvement son histoire. Le monsieur, avant 88, je dis bien, parce qu'il a eu un accident en 88. Mais avant 88, il vivait très, très bien. Vous allez même l'entendre. Et alors, il avait une famille, il avait un travail, il avait même une entreprise, il avait des employés. Et la vie, elle roulait très bien. Vous habitez à... On habitait bien, monsieur Réal. Hein?
Oui.
Alors, il habitait à... Alors, je veux juste informer nos auditeurs que le monsieur, suite à l'accident, il a eu la face droite qui était un peu défoncée, puis elle était remplacée malheureusement par des plaques métal. Alors, ouais. Il a beaucoup de difficultés à s'exprimer, et puis il a comme un handicap, une sorte d'handicap, demi-handicap.
Oui, d'accident, mais là encore, c'est...
Tout était cassé, c'est parfait. Alors, maintenant, le monsieur, j'ai dit, il avait, suite à cet accident, là, donc il y avait un camion, une voiture qui a foncé
face à face, il est arrivé face à face, le soir.
Ça, c'est une Abitibi, hein?
2000 avant d'arriver chez nous.
Ok, ok.
Je m'en allais tout bonnement, moi. Ouais. J'ai parti à 5 heures
du matin
de Val-d'Or, okay. 350 000. Puis j'en revenais le soir, j'avais dompé mon voyage de scrap.
Alors, juste pour préciser un petit peu plus, donc le monsieur, vous avez entendu, il se réveille à 5 heures du matin. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans sa vie, qui avait une épouse, qui avait une famille,
des enfants.
Il avait 3 enfants. C'est la belle vie, hein. Mais juste vous voyez que la vie, des fois, elle est un peu. Elle nous cache des surprises. Alors là, il a un accident. Et suite à cet accident-là, il avait, comme j'ai dit, la face droite. Un petit peu complètement
renfoncé.
Défoncé. Puis il avait le
poumon de...
Il avait trois côtes cassées, le poumon perforé,
un bras cassé.
Oui. Enfin, c'est tout un. Ce qui l'amène que son travail, graduellement, il va presque. Vous ne travaillez plus après, hein, c'est ça, M. Réal.
Il est en retourné.
J'ai fait de l'hôpital,
Ouais, c'est sûr, oui.
Et j'ai fait de la... Comment ils appellent ça? La radiographie?
Oui.
Non.
Un suivi médical, hein,
c'était... Pour mes genoux, ça a bien marché. Et la physio.
La physiothérapie.
Physiothérapie.
Thérapie, oui. Voilà. Alors, juste revenir sur son cas aussi. Donc, monsieur, il a eu, après cet accident-là, il est resté pendant presque 2 ans. 2 ans sans aucun retenu. C'est ça, monsieur? Il n'avait pas de revenu, c'est 2 ans. Et il reçoit 1 100 $ pendant 2 ans d'arrêt de travail, qu'il n'a pas travaillé. Est-ce que c'est exact?
Oui.
Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est resté, qui avait un accident, il n'était pas fautif. Est-ce que c'était fautif?
Mais non.
Bon, finalement, oui ou non, mais il n'était pas fautif.
Non.
Et il...
Le monsieur est ivre à propos de ça.
Et le monsieur qui l'a frappé,
il était ivre.
Alors, imaginez-vous, le premier constat, c'est que monsieur reçoit 1 100 $ pour 2 ans. Et il a pas... Alors, ce qui l'a amené de devenir quasiment... vous vivez comment, monsieur, là, quand vous recevez 1 100 $?
Mais là, vu qu'avant ça, ça allait bien à mon affaire...
Vous aviez un peu d'argent épargné?
Oh, oui, j'avais de l'argent. Mais là... La ruine a venu après.
Vous étiez ruiné après, là, c'est ça?
Alors, après, mon hold-up.
OK, mais ça, j'ai pas fini. Alors, j'ai dit qu'en 88, il y avait l'accident. Et en 90... Là, déjà, ça commence à se dégrader, hein, les choses. Hein. En 90, il vient ici à Montréal pour essayer de remettre un petit peu son entreprise en marche, qui était déjà très difficile.
Ouais,
et il s'installe dans un hôtel.
Au motel Lido, Laval.
Où c'était l'île de Laval?
Pas Laval, le nom du métropolitain.
Métropolitain. Et là, vous étiez, qu'est-ce que vous arrivez?
J'ai été battu.
Vous étiez agressé, hein?
Oui, battu.
Par deux individus que vous ne connaissez pas.
Mais je dois dire quelle couleur qu'il est?
Non.
Qui sont?
Non, vous ne les avez pas vus.
Ils n'ont pas vu.
Ils vous ont mis quoi sur la tête, monsieur?
Je dois le dire.
Oui, la race.
La race.
C'est deux noirs.
C'était deux noirs?
Oh, oui.
Mais qu'est-ce qu'ils ont mis sur la tête?
Rien.
Mais pour vous?
Un sac.
Un sac?
Non.
Mais vous, pour vous, sur vous, là, sur vous?
Ont... Oh, moi, ils m'ont ôté mes pantalons.
Oui.
Et on a secoué ça à terre.
Oui.
J'avais 1200 piastres.
Ils l'ont pris, dans l'argent?
Oui. Et puis mon frère, il était avec moi. Là. Il y avait 2400.
Ils l'ont volé aussi avec lui?
Oui.
Alors, ils étaient malheureusement agressés puis volés. Mais dans cet incident-là, il y avait un autre problème, c'est qu'ils l'ont mis un gant sur le...
C'est pas de... Mais là, il est pire que ça, là.
Oui.
Ils ont pris, quand ils ont fini de prendre mon argent,
oui.
Et puis ils m'ont donné un coup de caraté dans le dos.
Oui.
Et là, ils sont arrivés, ils m'ont mis couverte sa tête.
Ils ont couvert le visage pour ne pas les voir, c'est ça?
Non.
Non.
Non. J'avais vu un film, moi, que. Et quand ils tiraient, là.
Oui. Ah, oh my God, oui.
Pas que ça arbole chez les autres.
Oh my God, oui.
Il m'a coté ça, comme une minute.
Un pistolet?
Le 12, elle l'avait à côté.
Oui. Sur la tempe.
Sur la tempe.
Alors là, ils ont mis une couverture, et puis pendant une minute, ils ont mis un pistolet sur le...
Mais une minute, c'est un peu... Il me semble, j'ai trouvé le temps long.
Très long.
Et le cerveau, je l'ai vu grouiller.
Oui, oui.
Je l'ai senti grouiller.
My God, oui. Alors, vous comprenez, cher auditeur, que suite à ça, le monsieur était traumatisé. Premier accident de 88, elle a traumatisé complètement. Là, elle a remis quand même presque demi-handicapé. Et la seconde, celle de 90...
Un post-traumatique
où il est complètement, là, il est devenu vraiment dans la lune. Alors, il retourne chez lui en Abitibi et il va perdre malheureusement sa femme, sa maison, sa compagnie, il va tout perdre. Et à un moment donné même, il a dit qu'il était en train de fouiller dans les poubelles, hein, à un moment donné.
Oui, l'évêque passait devant eux, il disait 15%. Des coins, moi, après ou deux, je tombais à 5%.
Oui.
Là, je tombais plein qu'à 25-30 piastres.
Oui.
Puis là, moi...
Alors, c'est le plus important, ça c'est parfait, ça. On a tout compris ça. Alors,
ouais.
Maintenant, selon vous, M. Barnabé, qui a suivi son état depuis son dossier depuis une année, le monsieur, là, une fois, il est venu quand même s'installer ici à Montréal. C'est exact?
Oui, c'est ouais. Exactement. À peu près,
parce qu'il a tout perdu en Abitibi.
Oui,
hein,
en 2009, même.
2009-2010,
Et si vous le voyez, chère auditrice, pour décrire le monsieur devant moi, là, vous pensez qu'il a l'air d'être ivre et tout, mais c'est son état de santé qui l'a rendu comme ça. Et là, il va faire la rencontre des policiers, malheureusement.
Mm-hmm.
Et c'est ça où ça va tourner mal. Alors, monsieur Barnabé, qu'est-ce que vous allez nous dire là, à propos de... je sais qu'il habite à quelle place? Il habite
à Bournois.
À Bournois.
À Bournois, veut dire...
Bournois, oui.
Oui, Bournois.
C'est ça, excuse-moi.
Alors, là, lui, la première chose qui arrive avec...
Qu'est-ce qui est arrivé, le monsieur? Ben, il avait besoin de l'aide. Et puis là, avec ça, quand il a eu besoin de l'aide, il allait chercher du garde-manger. Et puis, il allait aussi...
Oui, j'avais tous les pouvoirs, moi.
Il avait le droit de
manger. Le droit de manger.
Et puis dans cette bâtisse-là, il y avait les policiers qui...
Dans la même bâtisse.
Dans la même bâtisse, un côté, il y avait les policiers, puis sur le bord aussi, c'était le garde-manger, puis oui. aussi la supérie. Et puis qu'est-ce que...
Le garde-manger, ça c'est un lieu où les gens diminuent, ils vont aller manger.
Oui, les pauvres yobles, du bien-être, qui ont
parfait.
500 pièces par mois.
C'est là, comme ça que vous vivez, oui, M. Bernard.
Puis là, après ça, le monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été amené un moulin à coudre.
Oui, mais dit.
Et puis là, rentrant.
Non, ce que je pense qu'il m'a expliqué, c'est que lui, un soir, il a trouvé ça devant la porte. Il l'a amené chez lui, mais il a découvert que il marchait bien et tout.
Oui,
donc le lendemain, vous avez pensé qu'il était jeté. Et puis vous l'avez repris, vous l'avez ramené au centre,
oui,
à ce centre-là.
Oui, vers midi et demi.
Alors, il le ramène dans le centre, et je dis bien dans le centre, c'est un centre, c'est un lieu où, pour que les gens les plus démunis peuvent aller venir manger.
Oui,
alors lui, il rentre dans ce centre-là, il trouve une table au milieu avec des policiers qui étaient en train de manger, quoi.
Oui, puis le Tarzan, la bottine terreur, ils sont dans le milieu comme un enfant.
Non, mais je parlais, excuse-moi, les policiers, là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont allés manger.
Ils mangent.
Ils mangent dans les centres de la place où les gens mangent.
C'est parce que la même bottine, puis ils posent ça. Puis, un instant, je vais vous expliquer un appel.
Oui.
Les chars de police, ils grillaient plus. Là.
Ils étaient là.
Ils grillaient pas, ça n'intéressait pas.
Oui.
Mais là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus
aller là-bas. Oui.
Parce qu'ils ont déménagé.
Ils sont rendus sur la rue de Saint-Laurent.
Non, mais monsieur Riel.
Ça regarde vraiment, là, des chars de police.
Monsieur Riel, est-ce qu'ils ont le droit, ces policiers, d'aller manger dans un lieu spécialement pour les diminuer, là?
Non.
Hein?
Mais non.
Un gars qui a du cœur dans le corps qui gagne 60 000 pièces par année.
Minimum, oui.
Ça prend un.
Ne devra pas aller manger la nourriture des plus démunis.
Je ne peux pas dire le nom, il n'est pas le droit.
Alors, ça c'était un cas. Deuxième cas, vous voyez voir, monsieur, il était dans ses escaliers, puis il a fait une chute, il a tombé, c'est ça?
Mais avant, il était le 18 d'août, de 2013, il était après jouer, je veux dire, une taverne.
Dans un bar, là.
Dans un bar.
Pour jouer la machine?
Au Barcotte. Oui. Il y avait 200 piastres de gaspillés.
Oui.
Dire gaspillés, c'est une folie qu'on...
Oui, quand vous avez un peu d'argent, vous allez les mettre là-bas, c'est ça?
Oui, 200 piastres. Là, j'avais plus d'argent. J'ai parti, mais j'étais à la Banque Royale à chercher 100 piastres. En arrivant, ma maladie, la colite est serreuse.
Oui.
C'est vrai.
Aux toilettes. Vous étiez malade, vous avez une diarrhée, et puis ça coule, hein, c'est ça?
Oh, ça coule,
Vous ne pouvez pas contrôler ça, c'était hors de.
Oh, non, monsieur,
hors de contrôle.
Non.
Alors là, la serveuse ou la personne qui travaille là-bas, elle est venue, elle vous connaît, elle vous a donné des serviettes et tout pour se nettoyer.
Oui.
Et après ça, il y avait un barman qui est venu.
Oui, très bien, une demi-heure, son quart d'heure après. Parce que là.
Vous a expulsé, c'est ça?
Oui, mais expulsé d'une manière que j'ai pas aimé.
OK.
Après ça, j'ai fait ça. Et j'ai continué à jouer, moi. Il est arrivé, puis il m'a fermé ma machine.
Oui.
Il a collecté l'argent. Il a pogné l'argent, puis il l'a jeté dehors. Il dit, tu sors.
Et vous a expulsé. Vous n'avez pas aimé ça parce que vous.
Non,
vous ne comprenez pas pourquoi. Ouais,
c'est
la manière.
Parce que je connaissais bien le gars.
OK. Oui.
Alors
vous rentrez, monsieur Brial, s'il vous plaît, vous rentrez chez vous, vous appelez la police.
Oui.
Parce que vous n'avez pas aimé ça.
Oui.
Vous sentez que vous n'étiez pas respecté.
Ben.
Selon vous, il n'a pas le droit de le faire.
Ben, supposément, j'ai trouvé ça cochon un peu.
Oui, voilà. Alors, les policiers vont venir, ils vont aller avec vous.
Oui.
Et sur le lieu, là, vous expliquez ce qui est arrivé. Après ça, eux, les policiers vous demandent s'ils veulent vous conduire chez vous.
Oui.
OK.
Ils me disent, si tu veux, je peux aller conduire chez vous.
OK, alors voilà, parfait.
Puis,
alors,
là, le problème... J'aurais pu m'emmener à pied, moi. J'aurais dû m'emmener à pied. J'aurais jamais pensé que ce gars-là était Il n'est pas droit de dire non, monsieur.
Non, non, c'est pas important. Alors, le policier va vous conduire chez vous, mais...
Aucun respect.
Oui, je comprends. Mais le policier vous conduit chez vous, mais en chemin, vous avez quand même... Vous n'avez pas pu retenir, et puis il avait la diarrhée aussi.
Oui, ça a commencé, oui.
À couler. Alors, lui, il a senti ça, en arrivant devant chez vous. Il vous ferme la porte, il vous laisse dans la voiture
fermée. Il ne m'a pas fermé la porte, il m'a fermé la porte...
Au bord,
puis il m'a emmené à la maison.
Oui, oui.
Mais moi, je pensais en arrivant qu'il me ferait sortir.
Oui, mais là, il ne vous a pas laissé sortir de la voiture.
Non, il m'a gardé 40-45 minutes.
Ça, donc. C'est 45 minutes dans la voiture, le mois d'août, ça fait très chaud.
En arrière, puis.
Et ça sentait fort, hein?
Mais moi, c'est pas la senteur, moi.
Oui, oui.
Même un chien, il a rachappé. J'étais comme en prison, moi,
c'est
en arrière.
Ouais.
Pas capable de sortir, moi, là.
Ouais. Vous allez, c'est dans la voiture avec...
J'ai cogné dans la vitre. Il a baissé le bas au devant. J'ai cogné dans la vitre. Il m'a lâché un cri comme... Même pas qu'on disait un chien.
Ouais.
Un animal.
Ouais. Vous avez demandé de sortir, c'est ça, de la voiture? Qu'il voulait sortir de la voiture?
Ben, je voulais sortir, moi.
Et vous a laissé à l'intérieur pendant 45 minutes fermé à l'intérieur.
Oui.
Avec la senteur.
Oui.
Avec la senteur.
La senteur, ça.
Mais, on en fait
ouais, mais lui, il a voulu vous punir. Il a voulu, c'est ça, il veut se venger, ou je sais pas, là.
Non,
c'est un manque de respect, monsieur, tout simplement.
Non, mais j'ai pensé que, supposément.
Oui.
Supposément, ce gars-là, là. Je ne sais pas si je dois le dire.
Non, mais monsieur, regarde, là, parce que là...
Il avait besoin des soins médicaux.
Ah, lui, mais... monsieur,
pour
Riel,
faire une affaire semblable.
Ah, oui.
Puis après ça, j'ai reconnu une autre fois, là. Puis, un autre cri. Là, j'ai commencé à dire, « T'es lettre! »
Oui, oui.
« T'es lettre! »
Oui. Alors, c'est...
Laissez, monsieur, oui. S'il vous plaît... J'aimerais dire...
Je sais que vous avez tellement envie de parler, oui, je comprends.
Oui, je vais te dire...
Mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, fais vite.
Oui, oui. Et là, la fille, ça...
Il y a une autre, okay.
Une autre policière, un autre patrouilleur qui est venu, oui.
Non, il n'est pas venu, il est à l'autre bord du chemin.
Okay.
Elle dit, on s'en va dessus.
OK.
Lui, il a dit... Il a dit, faut que je donne un constat avant, monsieur, il m'a injurié.
Oh my God, ouais.
C'est pas tout ça.
Oui.
Il dit à la fille, va voir son coloc, il veut pas sortir du char.
Oui.
Il était voir lui.
Oui.
Il veut pas sortir du char.
Si. Oui.
Ça prend-tu un...
écœurant.
Je veux le dire, un écœurant, un sans-cœur. Un gars qui a pas de classe pour faire un effet de la main.
Oui.
Il s'est fait passer pour un saint homme, lui.
Ça, c'est un policier de la ville de?
De Bois-Noir.
Châteauguay, qui vient à Bois-Noir.
Bois-Noir, oui. Alors, ça,
c'est... Je l'ai vu au palais de justice.
Réal,
il m'a rien en face.
OK. Mais Réal, ça c'est un cas. En revenant maintenant, vous étiez maintenant une fois, une autre fois, et on va essayer de finir rapidement. Vous étiez une fois sur votre... vous descendez vos escaliers, puis vous êtes tombé, et vous êtes rentré chez vous, vous avez appelé l'ambulance.
Mais c'est monsieur qui a appelé l'ambulance.
C'est votre coloc qui a appelé l'ambulance. Oui. Alors l'ambulance arrive, mais il y avait les policiers qui sont arrivés avant.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les policiers?
Je ne sais pas si ils arrivaient avant. J'étais assez sonné.
Oui.
Je ne sais pas, attends, comme une minute.
Oui.
Puis, j'ai essayé de m'élever deux, trois fois. Je n'étais pas capable.
Oui. Mais là, le plus important, là, c'est que l'ambulancier, là, vous avez reçu un billet d'infraction aussi. Hein.
Oui, un billet d'infraction.
Pourquoi? Parce qu'il a, pour eux, d'avoir appelé la police, d'avoir fait un 911 pour rien.
Pour rien.
Et c'est qui a décidé, là? C'est les policiers qui ont décidé de donner un billet d'infraction, comme quoi vous avez appelé le 911, vous avez composé le 911 pour rien du tout, c'est ça?
Ben, supposément.
Oui.
On a les papiers dessus.
Mais là,
on a devant. Si, oui.
Et je veux vous dire une affaire.
Oui, vite.
Voyons, les ambulanciers, ils ont ri de moi. Non. Ils ont dit, t'as rien.
Mais malheureusement, vous êtes allé comment à l'hôpital, et à l'hôpital, ils ont découvert que vous avez deux doigts cassés.
Un doigt cassé, le coude, il y avait des ecchymoses au coude.
Oui.
Et puis aussi, j'ai le chose de l'hôpital.
Et même malgré ça, que les policiers lui ont donné un constat d'infraction, oui, d'avoir appelé composé 911 pour rien, soi-disant, et puis il a reçu 86$ de d'amende.
86$, mais aujourd'hui, il est plus cher que ça, il est rendu à 175 pièces.
Mais dans son cas, lui, de ce réal ici, là, il avait appelé le 911 parce qu'il a fait une chute. Oui. Et il avait quand même à l'hôpital, ils ont constaté comme quoi il avait un doigt qui est cassé. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, il est handicapé.
Handicapé, mais j'ai un de mes os.
Vous pouvez pas le bouger, hein.
Non, mais ouais. Moi, j'ai handicapé, mais j'ai un de mes os.
Ok. Alors, vous, là, qu'est-ce que vous avez senti dans tout ça, là?
Senti?
Oui.
La justice.
Oui.
Il n'en a plus.
Pour vous, c'était pas juste. Pour vous, avant d'avoir cette maladie, avant d'avoir l'accident, vous étiez quand même un homme. Vous disiez, je vivais comme un roi, j'étais respecté, oui, et tout. Mais une fois, je suis rendu à cette situation-là où je suis devenu un diminué. Il n'y avait aucun respect envers moi. C'est ça ce que vous avez senti?
Oui, mais aujourd'hui, non. La pire affaire dans ma vie,
oui,
c'est pas mon accident, c'est pas mon dop,
oui,
c'est l'humiliation de ces... J'ai pas le droit de le dire.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur.
C'est madame mentale-là.
C'est l'humiliation.
Qui m'arrête pour le fun.
Oui.
Puis ils m'ont juste dit, si tu fermes pas ta gueule, on va t'en donner un deuxième. Aucun respect.
Oui.
Pourquoi il devait être responsable.
Dernière chose, vous avez quand même tenté de suicider, monsieur?
6 fois.
Vous avez tenté de suicider 6 fois?
6 fois.
Pour faire fin à tout ça ou quoi?
Mettre fin à mes jours parce que...
Parce que vous sentez être humilié dans une société comme la nôtre?
Oui.
Oui.
J'étais plus capable de grenier.
Il y a 71 ans, il n'y avait aucun dossier judiciaire, ce monsieur-là, à 71 ans.
Oui.
Puis après 71 ans, tout a plus que basculé, il est rendu un criminel aujourd'hui.
OK.
Pour la police.
Pour la police.
Ouais.
Voilà. Alors, voilà, donc...
La police de Châteauguay.
Oui.
Qui est... Maintenant, on commence à dire, c'est... Oh, il y avait du respect.
Ah oui, oui, il y a des gens, je suis d'accord, ça c'est sûr, on ne peut pas tout généraliser. Chers auditrices, chers auditeurs, voilà, donc nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. J'aimerais remercier d'abord M. Alexandre Popovitch d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier M. Réal d'avoir déplacé à nos studios, d'avoir aussi ce courage-là, d'avoir dire un mot, oui, l'humiliation. Hein, d'avoir
oui,
dire l'humiliation. L'humiliation. Alors, merci aussi pour un jeune qui nous...
Le soin... Pour
le, monsieur? Alors, merci aussi pour le technique, pour la technique du son. Merci pour Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt.
Un foyer de découverte musicale et multiculturelle, une formidable scène d'expérimentation pour les créatrices et les créateurs. Nous collaborons avec de nombreux organismes, des festivals et des manifestations publiques pour faire connaître les réalisations et les créations des Montréalaises et des Montréalais.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
Un monde différent.
Le Festival international de cinéma Vue d'Afrique vous invite à célébrer son 30e anniversaire.
Venez du 25 avril au 4 mai à Montréal, Québec et Gatineau découvrir le meilleur du 7e art africain et créole en compagnie de milliers de cinéphiles.
Une vision, un monde, 5 continents, des cultures, Vue d'Afrique. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et visitez le www.vuedafrique.org.
Très bon festival à tous!
Bonjour. Aujourd'hui encore, trop de membres de notre communauté sont touchés par le VIH-SIDA. Savez-vous qu'une personne sur trois ne sait pas qu'elle est atteinte? À une époque où les traitements sont très efficaces et où il est possible de vivre en santé pendant longtemps, savoir si l'on est atteint est essentiel. Le dépistage est offert dans plus de 140 centres et organismes communautaires au Québec. C'est gratuit, confidentiel et cela ne prend que quelques instants. Rendez-vous sur sefairedépister.ca pour trouver le centre le plus proche de chez vous.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.